Bonsoir Internet, bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Beniamino de Barreau de Paris, et Clara Kane sur Internet, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui pour son deuxième numéro, Lise Hildirim.
Bonjour.
Bonjour. Lise est avocate en droit de la communication et en droit de la presse. Et avec nous également pour sa première fois, Alice Lasserie.
Bonjour.
Alice est avocate au barreau de Paris et au barreau de New York en droit du numérique. Et Alice travaille avec moi en ce moment. Elles sont très fortes, elles sont vives, elles sont affûtées, elles sont tellement brillantes que ça fait mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour. Qui est... Comment la loi protège-t-elle les journalistes ? En effet, on a décidé d'évoquer aujourd'hui avec vous la question de la loi qui encadre le journalisme et les journalistes, puisque, comme vous le savez peut-être, les journalistes ont un statut assez particulier. Et la loi aménage ce statut particulier, elle l'encadre, elle le protège et elle l'organise. Du coup, on a décidé de se demander et de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il existe un cadre aussi protecteur, aussi particulier pour cette profession ? Qu'est-ce qui justifie un régime un petit peu particulier et spécial ? Et pour commencer, on va évoquer les aspects de droit pénal, le volet droit pénal du droit de la presse. Et c'est Lise qui commence en nous parlant d'une certaine perquisition.
Oui, le 6 février dernier, il y a une perquisition qui nous a tous beaucoup choqués, en tout cas les gens qui connaissent un petit peu le droit de la presse, puisque deux procureurs se sont présentés dans les locaux de Mediapart afin de procéder à une perquisition.
Alors déjà, qu'est-ce que c'est une perquisition ?
Alors une perquisition, c'est une mesure de contrainte, c'est-à-dire soit des policiers, soit des magistrats qui se présentent au domicile d'une personne et qui vont soit demander, soit forcer l'entrée pour... fouiller les lieux et récupérer des documents.
D'accord. Et donc, du coup, là, deux policiers se présentent chez Mediapart.
Alors, deux procureurs.
Deux procureurs.
Parce qu'on va le voir, en fait, lorsqu'on fait une perquisition chez des journalistes, il faut absolument que ce soit des magistrats, c'est-à-dire des juges, et pas simplement des policiers qui agissent au nom des juges.
Donc, par exemple, c'est pas la même chose de faire une perquisition dans une rédaction de presse que de faire une perquisition chez quelqu'un ?
Exactement. Il y a un statut qui est particulier pour les organes de presse, et c'est justement dans l'objectif de protéger ce qu'on appelle les sources des journalistes.
On l'expliquera peut-être une autre fois, mais il y a aussi un statut particulier par exemple pour les cabinets d'avocats.
Exactement, parce que de la même manière, les avocats ont dans leur cabinet des éléments qui nécessitent une protection supplémentaire.
Du fait de la confidentialité. Et donc du coup, il existe un régime spécial pour les perquisitions dans les organes de presse du fait du secret des sources, c'est-à-dire ?
Exactement. Alors juste de manière préliminaire, il faut quand même rappeler que les perquisitions au sein des organes de presse, c'est rarissime et c'est même très choquant. De mémoire, là, récemment, on n'a pas d'exemple de perquisition telle que celle qui a été tentée chez Mediapart.
Tentée.
Et je dis bien tentée parce qu'en réalité, les procureurs qui se sont présentés, ils sont allés un petit peu au talent.
On revient sur la note technique et la note artistique de l'épisode Press People.
Merci. Exactement, puisque en fait, pour vous la faire courte, il y a deux types de perquisitions. Il y a celle qui est autorisée par un juge spécifique et la personne qui se fait visiter, on parle de visite domiciliaire également pour parler de perquisition, la personne qui est visitée ne peut pas s'opposer à la perquisition quand ça a été autorisé par un magistrat spécifique. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas cette autorisation spéciale et donc Mediapart a simplement pu dire à ces deux procureurs « Non, vous ne rentrez pas ». Et ils sont repartis bredouillants.
Vous ne passerez pas, littéralement.
Oui, littéralement. La question, évidemment, qui se pose, c'est celle des sources. Pourquoi il y a eu une perquisition chez Mediapart, enfin une tentative au mois de février ? Parce que Mediapart avait... diffuser une vidéo de Alexandre Benalla et Vincent Crass en train de violer leur contrôle judiciaire. Ils papotaient tranquillement tous
alors
les deux.
Alors que du coup,
ils n'avaient pas le droit de se voir.
Ils n'avaient pas le droit de se voir.
Voilà. Et donc,
ils n'avaient légalement pas le droit de se voir. Il y avait une décision d'un juge.
Exactement. C'est-à-dire que s'ils se voyaient, potentiellement, ils allaient en prison. C'était ça l'enjeu. Donc
okay.
C'était une vidéo très importante.
Voilà.
De manière complètement inexplicable, il y a quelqu'un au parquet de Paris qui s'est dit « En fait, diffuser cette vidéo, ça porte atteinte à l'intimité de leur vie privée. Donc, on va mener une enquête. Voilà.
Hilarant. C'est vrai que c'est pas très sympa.
Bon, un peu ironique.
Un peu ironique. Mais
du coup, ça veut dire qu'effectivement, cette vidéo en tant que telle, le fait d'avoir cette vidéo, c'est illégal. Et donc, est-ce que quand on a une source journalistique qui relève d'une infraction pénale, est-ce qu'on peut pour autant faire une perquisition pour essayer de retrouver qui a commis cette infraction ?
Et alors ?
Alors, aujourd'hui c'est le cas, mais ça n'a pas toujours été le cas en France. Parce qu'en fait, la protection du secret des sources, c'est un truc assez récent.
Du genre ?
Dans la loi, ça date uniquement de 2010.
Donc avant 2010 en France, dans la loi française interne, il n'y a pas écrit spécifiquement « le secret des sources des journalistes, c'est protégé ».
Exactement.
J'ai vraiment un gros talent de rédaction de loi, je voudrais qu'on le mette, s'il vous plaît. Recommandez-moi sur LinkedIn.
En effet, en réalité, en 1918, on avait simplement un principe déontologique qui était posé par la Charte des devoirs du journaliste, qui était adoptée par un syndicat national des journalistes. Et cette charte disait simplement qu'un journaliste digne de ce nom garde le secret professionnel.
D'accord, donc en fait, jusqu'à 2010, il n'y avait pas dans la loi interne française de texte qui disait « les sources sont protégées, les sources des journalistes sont protégées », mais on avait un principe déontologique.
Exactement.
Mais qui n'était pas d'application obligatoire.
Exactement. Okay. Et en fait, heureusement, on a eu le Conseil de l'Europe et la Convention européenne des droits de l'homme qui se sont inspirés, en fait, de ce principe déontologique. Et c'est un principe qui existe dans beaucoup d'États membres du Conseil de l'Europe. Et la Convention européenne des droits de l'homme a, on en avait parlé précédemment, un article 10 qui protège la liberté d'informer et surtout la liberté d'expression.
Tu nous racontais hier soir en préparant l'émission que du coup, avant ça, il y avait des méthodes un petit peu imaginatives si jamais on faisait l'objet d'une perquisition.
Exactement, le système D des journalistes. Parce que
alors là, c'est le système C du coup.
avant la Convention européenne des droits de l'homme et avant la réforme de 2010, moi j'ai cette anecdote qui est juste incroyable d'une agence de presse qui faisait beaucoup d'investigations. Donc ils partaient avec leurs caméras et ils allaient tourner des images et c'était très politique. Voilà, c'est la France de Balladur et de Chirac, hein, donc c'est quand même une autre époque. Et donc les journalistes se disent « Ok, on sent qu'il y a une perquisition qui va arriver ». Et à l'époque, c'était donc beaucoup moins protégé qu'aujourd'hui. Et donc ils avaient ces VHS, hein, les cassettes avec les rushs de l'enquête. Et ils sont allés
les VHS ? Non, je déconne, continue.
Et donc ils sont allés planquer les rushs au fond des sacs de couscous du resto marocain du coin. Voilà.
Le fameux système C, le sac de couscous.
Bon, heureusement, avec le Conseil de l'Europe et la CEDH et notre article 10, on a une jurisprudence en fait qui s'est dégagée à compter de 96, qui est venue nous dire que la protection des sources journalistiques est une pierre angulaire de la liberté de la presse.
Et ça, c'est bien.
Évidemment, c'est bien. Du coup, la France s'est dit, il est peut-être temps que je me réveille. Et en 2010, on a fini par ancrer le principe de la protection des sources des journalistes dans la loi. Et donc, on est venu mettre ce principe dans la loi sur la presse, qui est la fameuse loi du 29 juillet 1881. Et on a mis ce principe de protection à l'article 2. Donc, ça prouve quand même que
c'est
important.
Tout de suite. C'est quoi l'article 1 ?
C'est la liberté de l'impression.
Très bien. Donc, t'as le droit d'imprimer des trucs ou de les mettre en ligne, ou etc., puisque donc, ça s'adapte. Et deux, les sources, c'est secret.
Exactement.
Très bien.
Et donc, du coup, cet article 2, il vient nous dire, en gros, que le secret des sources, c'est protégé lorsque les journalistes exercent leur mission d'information du public. Donc, c'est pas n'importe quand, c'est vraiment quand ils exercent leur métier. Et qu'il est possible d'y porter atteinte uniquement s'il existe un impératif prépondérant d'intérêt public et que les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées.
Ok.
Ce qui veut dire que le but doit être hyper important et que le secret ne peut être dévoilé que pour ce but précis. On ne peut pas aller à la pêche aux infos.
Mais il est vrai qu'en France, ce principe de protection des sources et des journalistes, qui est très très beau et très très noble et très très précieux, on a une fâcheuse tendance à essayer de le contourner un peu.
Oui, en fait, il y a une vraie tendance de la part des enquêteurs, alors maintenant qu'ils commencent à passer grâce à cette protection juridique qu'on a, mais les enquêteurs aimaient bien, pour essayer de comprendre d'où venaient les sources des journalistes, décortiquer leur fadette.
C'est quoi une fadette ?
C'est les relevés d'appels téléphoniques détaillés. Mmh. Donc, grâce à cette réforme de 2010 et grâce à la jurisprudence de la CEDH, on a dès 2011 un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui vient nous dire au visa de ces deux textes que c'est mort les fadettes. Si c'est pas pour vraiment un but prépondérant d'intérêt public, on peut pas s'amuser à décortiquer les appels téléphoniques de journalistes.
Tu peux nous donner un exemple de but prépondérant d'intérêt public ?
Là, comme ça, je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui pourrait être justifié, c'est le terrorisme et par exemple tout ce qui est trafic
d'enfants et d'organes,
voilà,
ou d'organes d'enfants,
ou pédopornographie, ou ce genre de choses. Ouais. Mais par exemple, en 2014, la 17e chambre, qui est donc la fameuse chambre de la presse, nous a dit que, par exemple, quelqu'un qui fait fuiter des documents d'une instruction judiciaire en cours, ce qui est une infraction pénale, hein, ça justifie pas qu'on décortique les fadettes d'un journaliste.
Alors, Lise vient de continuer telle une pro tout droit, pendant que Solène, notre réalisatrice, a déplacé son écran d'ordinateur pour pouvoir m'adresser des regards de la honte plus facilement. Donc, effectivement, on voit bien que la justice française s'est quand même un peu emparée du sujet et a cadré les choses. Et donc, maintenant, le secret des sources, c'est un vrai truc. C'est plus genre un principe déontologique très noble, mais dont tout le monde
se fiche. Oui, voilà. En fait, la tendance s'est propagée parce que, par exemple, si on prend l'exemple de l'audition libre, c'est quand vous êtes convoqué au commissariat pour témoigner à propos d'une affaire. L'article sur l'audition libre, aujourd'hui, il vise spécifiquement le cas du journaliste. C'est-à-dire, on a un alinéa 2 qui nous dit « Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine. »
Eh ben, et ça, on est content.
Eh ben, on est très content.
On est très content. Pour en revenir aux perquisitions des organes de presse, qu'est-ce qui se passe du coup en pratique ?
Alors en pratique, on a cet article 56-2 du Code de procédure pénale qui vise spécifiquement la perquisition dans un organe de presse. Et ça nous dit qu'en gros, elle peut être effectuée uniquement par un juge, donc c'est pas la police tout seul, sur décision écrite et motivée. Le juge est tout de suite obligé de dire au journaliste qu'il est en train de perquisitionner pourquoi il est là, quelle est l'infraction sur laquelle il est en train d'enquêter. Donc dans l'exemple de Mediapart, c'était l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Benalla et Crass. Ce nom,
hilarant.
C'est terrible. Hein. Enfin, Vincent Crass, qui s'appelle Vincent Crass. Pardon. Il y a que le juge qui peut prendre connaissance des documents saisis. Et surtout, si le journaliste lui dit « Hop, ce document-là, c'est une source, je veux absolument pas que ça fuite », tout de suite, c'est transmis à un juge spécial, complètement indépendant, qui n'est pas dans le dossier.
Qui n'a pas de lien avec l'affaire.
Exactement.
Donc qui vraiment n'a pas de parti pris.
Et qui a 5 jours pour se prononcer et dire si oui ou non on peut utiliser ce document ou pas. Donc ça, c'est vraiment un rempart pour protéger le secret des sources. Voilà, pour un petit peu expliquer, la perquisition, on l'a dit, hein, c'est rarissime, c'est choquant, c'est une mesure de contrainte, c'est un truc extrêmement violent. En gros, on rentre chez vous et on met votre appartement à sac, on cherche des documents. Donc faire ça chez des journalistes aujourd'hui, heureusement, dans la société démocratique dans laquelle on est, ça arrive quasiment jamais. Et en pratique, la justice, quand elle a besoin d'informations auprès de journalistes, elle procède davantage avec ce qu'on appelle... Ouais, et surtout des réquisitions judiciaires. La réquisition judiciaire, c'est en gros un juge qui envoie un papier à BFM TV ou à iTélé, ou que sais-je. Ça n'existe plus, iTélé, je suis très triste, pardon. LCI.
Et maintenant, 20 minutes de violon pour pleurer la mort de iTélé.
Bolloré, si tu nous écoutes. Et donc, la réquisition judiciaire, c'est vraiment un juge qui envoie un petit papier en disant « J'ai vu que BFM TV avait filmé pendant une manif une agression. J'ai besoin de vos rushs. Vous me les transmettez et vous me transmettez que ça. »
Une agression pendant une manif. Ah oui, c'est-à-dire, je veux dire, quelqu'un qui travaille avec le gouvernement.
Effectivement, c'est pas dit qu'il cherche ces rushs-là, mais voilà, c'est un cas d'école. Et en tout cas, ça permet aux journalistes de participer quand ils le peuvent et quand ça respecte le secret des sources à certaines enquêtes judiciaires.
Eh ben merci la loi. Autre aspect, autre dimension de la façon dont la loi encadre le métier de journaliste et la façon dont ça marche, c'est tout ce qui concerne le droit du travail et c'est Alice qui va nous expliquer.
Alors, pour ce qui concerne les journalistes, depuis 1974, ils bénéficient de ce qu'on appelle une présomption de salariat.
Stop ! Une seconde de prise de parole, déjà un terme. Qu'est-ce que c'est la présomption ?
La présomption, c'est un mode de raisonnement juridique selon lequel on va déduire d'un fait connu un fait inconnu.
Ok, en pratique.
En pratique, pour ce qui nous concerne, on va déduire du fait que le journaliste est un journaliste professionnel, et on verra ce qu'est un journaliste professionnel, le fait qu'il est également un salarié.
Ok, donc à partir du moment où tu réunis les conditions de la loi qu'on va détailler juste après, tu es considéré comme journaliste professionnel et paf, tu es salarié.
Exactement.
Et on va expliquer après pourquoi est-ce que c'est chouette.
Exactement.
D'accord.
Donc, cette présomption de salariat permet aux journalistes de leur faciliter l'administration de la preuve. Dans
t'es incorrigible, incorrigible. Donc, qu'est-ce que c'est ?
La présomption, cette présomption de salariat permet aux journalistes professionnels de ne pas avoir à apporter la preuve du fait qu'il est salarié et du fait qu'il peut bénéficier de tous les avantages du salarié.
Donc, à partir du moment où tu réunis ces quatre critères sur lesquels on arrive tout de suite, c'est promis, paf, c'est bon, t'es journaliste professionnel et donc double paf, t'es salarié.
Exactement.
Ok, donc c'est quoi ces quatre critères ?
Alors, les quatre critères pour pouvoir bénéficier de la présomption de salariat, c'est d'abord qu'il faut effectivement exercer la profession de journaliste.
Okay.
Parce que le statut de journaliste professionnel n'est pas accordé une fois pour toutes et il peut être perdu si la personne n'exerce plus l'activité de journaliste.
Ok, ça c'est le premier. Ensuite.
Premier point. Deuxième point, il faut exercer dans une ou plusieurs entreprises de presse.
Ok.
Pas de difficulté. Troisième condition, l'activité doit être exercée à titre principal, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être l'accessoire d'une autre profession. Mm-hmm. Ton métier, ça doit être d'être journaliste.
Par exemple, si je suis comptable au Monde et qu'un coup de temps, je fais un article, c'est pas mon
non,
activité
c'est
à
pas
titre
ton
professionnel.
Activité principale.
Alors que je bosse dans un organe de presse, etc.
Exactement.
Ok, ça c'est 3. Et le 4 ?
Et dernier point, l'activité doit être rémunérée et doit procurer à la personne l'essentiel de ses revenus, c'est-à-dire au moins la moitié de ses revenus.
Ok, et donc, une fois que ces 4 critères sont réunis...
Alors, je me permets juste une toute petite précision.
Mais je t'en prie.
Et qui est importante, c'est que la détention de la carte de presse n'est pas obligatoire. Tant qu'on remplit ces 4 critères-là, on n'a pas besoin d'avoir une carte de presse.
Exactement, et j'ajouterais même que la détention de la carte de presse ne te fait pas être un journaliste professionnel. C'est très moche.
Non. Pas nécessairement. Ouais, c'est-à-dire que la détention
c'est
de la carte de presse
carte
ne fait pas de toi un journaliste professionnel, et l'absence de détention de la carte de presse ne veut pas dire que tu n'es pas journaliste professionnel.
Exactement.
Ok, donc en fait, ce qui compte, ce n'est pas le fait d'avoir la carte, ce qui compte, c'est le fait de remplir ces 4 critères.
Exactement.
D'accord, et donc...
Et ce qui est très important... dans la définition du journaliste professionnel, c'est que cette définition ne tient pas compte du mode de rémunération du journaliste, ce qui permet à tous les journalistes, et ils sont nombreux, qui sont payés à la pige, les fameux pigistes, de pouvoir être considérés comme un journaliste professionnel et donc bénéficier de cette présomption de salariat.
Et donc, en quoi c'est précieux tout ça ? En quoi c'est précieux de pouvoir dire « je suis salarié » ?
C'est précieux parce que justement, beaucoup de journalistes sont dans une situation assez précaire, et le fait de pouvoir être considéré comme un journaliste professionnel leur procure un grand nombre d'avantages.
Lesquels, par exemple ?
Alors d'abord, il y a les avantages classiques qui découlent du salariat, c'est-à-dire la protection de l'emploi, les congés payés, la sécu, le chômage, la retraite et tout ça.
Les tickets resto,
par exemple. Et il y a un certain nombre de bénéfices qui sont spécifiques aux journalistes et qui ont été inclus dans le Code du travail.
Donc attends, on a donc les bénéfices. Donc à partir du moment où tu réunis les quatre conditions, bam, t'es journaliste professionnel, donc bam, t'es salarié. Donc classiquement, tu es salarié, donc tu as le droit à la protection sociale du salarié, au congé payé, à la sécu, au chômage, tous ces trucs qui font rêver les professions libérales.
Et exactement.
Voilà, donc ça, c'est les avantages dits classiques. Et il y a aussi des avantages plus spécifiques.
Exactement.
Lesquels sont-ils ?
Les avantages spécifiques aux journalistes, ce sont, par exemple, la reconnaissance d'un droit d'auteur des journalistes, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mm-hmm. C'est également la reconnaissance de ce qu'on appelle les clauses de conscience et les clauses de cession.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, la clause de conscience, c'est un droit qui permet au journaliste, en cas de changement de situation juridique de son employeur, de son titre de presse, et plus particulièrement en cas de changement de ligne éditoriale de son titre de presse, de démissionner tout en conservant les avantages du licenciement.
Donc les indemnités, le droit
voilà,
au chômage.
Particulièrement les indemnités.
Donc ça, c'est la clause de conscience. Est-ce qu'il y a d'autres particularités ?
Oui, il y a la clause de cession, qui est très proche de la clause de conscience, mais qui s'en distingue quand même. La clause de cession, c'est celle qui permet aux journalistes de bénéficier d'une présomption de changement de ligne éditoriale, encore la présomption, en cas de changement d'actionnaire au sein de son organe de presse.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que si demain, le Figaro était racheté par Le Monde, les journalistes du Fig pourrait dire, changement de ligne éditoriale présumé, moi je démissionne et j'ai le droit à mes indemnités.
J'imagine l'humanité rachetée par Coca.
tu vois.
Par exemple.
Exactement. Non, mais en réalité, c'est hyper important parce qu'en ce moment, et notamment dans la production audiovisuelle, on constate qu'il y a une vraie concentration du milieu avec plein de boîtes audiovisuelles qui se font racheter, etc., avec des groupes qui sont en train de se restructurer. Et donc, les petits organes de presse qui, à l'époque, étaient tout petits, indépendants dans leur coin, quand ils se font racheter par des mastodontes des médias, là, les journalistes peuvent activer leur clause de cession. Et c'est hyper important parce qu'en réalité, qui dit rachat, dit restructuration, dit on dégage des gens. Et là, le statut, la protection du journaliste en tant que salarié est hyper importante et permet à ces gens-là de retomber sur leurs pattes.
Donc, on voit qu'il y a quand même des mécanismes légaux particuliers qui donnent un statut particulier à cette profession de journaliste. Et donc, qui en fait, protège le quatrième pouvoir, protège l'indépendance de conscience et la qualité de la couverture de l'information.
Exactement.
Parfait, merci. Écoutez, Alice a validé, je crois que du coup on peut passer à la section d'après. Merci. Ok, donc on a parlé du volet droit pénal, on a parlé du volet droit du travail, il est temps qu'on parle des droits d'auteur. Qu'est-ce qui commence ?
Eh bien, moi, pour quelques rappels théoriques et généraux.
Mais bien sûr.
Non, parce que avant d'aborder la question des droits d'auteur des journalistes, on l'a dit et répété, c'est spécifique. Donc, on s'est dit que ce serait bien de faire un petit rappel du principe, n'est-ce pas ? Un droit d'auteur, c'est quoi ? C'est pour toute personne.
C'est une thèse.
D'autres personnes se sont tentées à répondre. Non, le droit d'auteur, c'est quoi ? C'est un droit exclusif qui apparaît sur la tête de celui qui crée. C'est-à-dire, celui qui crée une œuvre peut s'opposer à ce que d'autres personnes exploitent sa création sans son autorisation expresse. Dans le cas du journaliste, ça va être le journaliste qui écrit un article, qui réalise un reportage ou qui conduit une interview. C'est sa création, il a des droits d'auteur dessus et le principe du code de la propriété intellectuelle voudrait qu'il puisse s'opposer à toute exploitation de son article s'il n'a pas conclu un contrat. Si ce n'est qu'en réalité, le journaliste, il a un régime dérogatoire. Donc, on va se rendre compte qu'il n'aura pas besoin de signer ce contrat. Le principe, c'est quoi ? C'est quand je suis créateur, je signe un contrat pour céder mes droits qui dit quel droit je cède, pour quel territoire, pour quelle durée et pour quel prix. Sauf qu'en pratique, on s'est rendu compte que, enfin plutôt le législateur, s'est dit c'est trop lourd pour les journalistes, il faut simplifier le système. Et c'est comme ça qu'on a mis en place un régime dérogatoire.
Un régime dérogatoire qui a été mis en place en 2009, Alice.
Exactement, ça a été mis en place en 2009 par la fameuse loi Hadopi.
Hadopi comme la Dopi ?
Hadopi comme la Dopi.
Donc, qui a aussi prévu des choses pour la presse.
Exactement. Elle n'a pas fait que sanctionner le téléchargement illégal. Elle a mis en place pour les journalistes un mécanisme de cession automatique des droits d'auteur des journalistes à l'organe de presse qui les emploie.
Comment ça marche ?
Eh bien, au moment où le journaliste est recruté par son employeur, par l'organe de presse.
Donc, quand on dit recruter, c'est à la fois un contrat à durée déterminée, plein temps, etc., et à la fois pour faire des piges.
Exactement. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, les droits du journaliste sur l'article ou les articles qu'il va être amené à écrire sont automatiquement cédés à son employeur qui va pouvoir les exploiter, évidemment dans certaines conditions encadrées par la loi, etc. Mais le journaliste est dépossédé de ses droits.
Donc il n'est pas censé, à chaque fois qu'il écrit un papier, un article, quelque chose, signer une petite cession de droit. Quoi. Là,
ça, c'est
pas
le principe.
Besoin. Ça, c'est le principe.
Ça, c'est le principe.
Coup...
Et le régime dérogatoire qui a été appliqué au journaliste fait que, de par son statut, le journaliste n'a plus besoin de céder ses droits au coup par coup à son employeur.
Ok. Alors,
comment est-ce que l'employeur a la possibilité d'exploiter les articles de ses salariés ? Cette exploitation se fait à travers ce qu'on appelle des cercles d'exploitation des œuvres des journalistes.
Et donc, il y en a trois. Premier cercle.
Il y a trois cercles d'exploitation. Le premier, c'est l'exploitation au sein du titre de presse au sein duquel le journaliste est recruté. Donc, je suis journaliste, je travaille pour Le Figaro.
J'écris un article pour Le Figaro, il est publié dans Le Figaro.
Exactement. Et Le Figaro a la possibilité de le publier dans sa version papier, dans sa version en ligne, autant de fois qu'elle veut, sans avoir à me demander une autorisation.
Ok.
Cette exploitation, alors le journaliste est quand même rémunéré, et cette exploitation est rémunérée à travers le salaire qui est versé par l'employeur au journaliste.
Donc on n'a pas une espèce de prime, quoi.
Il n'y a pas de prime, il n'y a pas le versement d'une redevance au titre du droit d'auteur, comme c'est normalement le cas en principe.
Oui, par exemple, sur les ventes de disques, tout le monde a vraiment cette idée de la royalties de chaque fois que j'achète un compact disque ou que j'écoute la chanson sur une plateforme de streaming, il y a un petit pourcentage qui va au chanteur, à l'auteur, etc. Quand je clique sur un article dans Le Monde, Le Figaro, il n'y a pas un pourcentage de l'argent qui est généré qui va au journaliste.
Non.
C'est couvert par son salaire.
Exactement.
Ok.
Ça, c'était le premier cercle d'exploitation. Le deuxième cercle d'exploitation, c'est l'exploitation au sein de ce que la loi Hadopi a appelé la famille cohérente de presse.
Et donc, par rapport au Figaro, ça serait quoi l'exemple?
Ça serait tous les titres de presse qui appartiennent au groupe auquel appartient le Figaro. Donc, par exemple, le magazine Madame Figaro. Qui est publié le week-end. Ce journaliste qui a écrit un super article le mercredi, le Figaro a le droit de dire « Je vais reprendre ton article et je vais le publier dans un autre titre qui appartient à notre famille. »
Et est-ce que ça donne droit à une nouvelle rémunération?
Alors, pour cette exploitation, l'employeur a l'option soit de verser, en principe, une rémunération à titre de salaire complémentaire, soit elle peut verser une rémunération au titre des droits d'auteur. La seule différence entre les deux, c'est le régime fiscal, c'est-à-dire que en versant un salaire, on paye des cotisations.
Maintenant, deux heures de détails sur le régime fiscal.
Bien sûr.
Non, mais c'est vrai que la question du deuxième cercle d'exploitation est hyper importante au vu de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la concentration des médias. Il y a tellement de rachats qu'aujourd'hui, la famille cohérente de presse, c'est un truc énorme. Je vous invite à aller voir la carte qui est régulièrement rééditée par le monde diplomatique sur qui détient quoi des organes de presse en France. C'est terrifiant.
Mathieu Gallet, c'est tout. Juste Mathieu Gallet.
Xavier Niel.
Et... J'ai ça. Pardon, excusez-moi. En fait, vous faites le contenu et moi, je fais les blagues.
C'est ça.
Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Est-ce qu'on avait fini sur le deuxième cercle?
Le deuxième cercle, c'est bon.
Et le troisième?
Troisième et dernier cercle d'exploitation, c'est ce qu'on appelle les exploitations extérieures, c'est-à-dire tout ce qui est hors famille de presse. Donc, par exemple, demain, Le Figaro souhaitait publier un livre dans lequel il organisait d'une manière ou d'une autre les articles écrits par ses journalistes. Le Figaro serait obligé de rémunérer de manière complémentaire et seulement au titre des redevances de droits d'auteur les journalistes pour lesquels il a pris les articles.
D'accord, donc ça ne serait pas du salaire, ça serait du nouveau droit d'auteur.
Exactement, et là, il n'y a pas le choix.
Ok, donc une petite conclusion pour tout ça peut-être? Ou pas,
Que du coup, le journaliste est depuis la loi Hadopi, très fragilisé dans sa manière de se rémunérer, puisque aujourd'hui, on est quand même sur des exploitations de plus en plus en ligne, donc il n'y a plus de rémunération supplémentaire, de plus en plus au sein de familles cohérentes de presse, parce qu'aujourd'hui, les mêmes titres appartiennent tous au même groupe. Donc les pauvres journalistes, ok, ils ont leur présomption de salariat, mais en termes de rémunération, c'est un peu faiblard.
Alice ?
Autant on essaye de les protéger dans la façon dont ils exercent leur métier, autant leur casquette auteur, on n'a pas...
Elle est de plus en plus fragile.
Exactement.
Ok, donc on a fait là un tour le plus exhaustif possible dans le temps qui nous est imparti sur comment est-ce que la loi française cadre, organise, protège la vie du journaliste dans son exercice professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les grandes nouveautés qui nous foncent droit dessus, il y a une directive européenne qui a été votée il y a quelque temps, dont vous avez beaucoup entendu parler pour les modifications potentielles qu'elle pourrait faire sur les youtubeurs. C'est l'article 13 qui est devenu l'article 17. Mais il y a également un autre article qui a fait grand débat et grand bruit, qui est l'article 11, qui maintenant est l'article 15, c'est ça? Ouais. Et donc, cet article-là va prévoir, alors je vais vous le dire très très vite parce que c'est un peu compliqué, va prévoir peut-être la création d'un droit voisin au profit des éditeurs de presse. On ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, on le fera peut-être une prochaine fois, puisqu'il s'agit d'une directive. Une directive a besoin d'être adaptée pour être mise dans la loi française, à l'inverse d'un règlement. Un petit peu compliqué. Mais donc, du coup, pour l'instant, comme on ne sait pas exactement comment ça va se passer en France, on préfère vous épargner les détails un peu techniques. Est-ce que l'une de vous veut ajouter quelque chose ?
L'esprit de cette directive, c'est quand même toujours dans, face à la montée d'Internet et face à la montée de cette technologie, et notamment des agrégateurs de contenu.
Google News.
Voilà, face auxquels les éditeurs de presse sont un petit peu démunis. L'Europe a décidé de leur donner un coup de pouce et de leur conférer un droit voisin, c'est-à-dire une possibilité de se rémunérer sur leurs articles qui sont repris par les agrégateurs, à voir du coup dans les deux prochaines années comment, en pratique, ça va être mis en place.
Oui, parce qu'effectivement, à partir du moment où une directive est votée, les États membres ont 2 ans pour les inclure dans leurs droits nationaux avec les adaptations nécessaires. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour, que c'était donc notre épisode sur le droit des journalistes. Besoin de rien, envie de droit est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Solène Moulin. Nous sommes sur les réseaux sociaux, sur les applis de podcast. Aimez-nous, likez-nous, envoyez-nous des étoiles et on se retrouve dans 15 jours.
Binge.